Merci d'écouter RFI. Il est midi et demi en temps universel, 14h30 à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. L'Afrique du Sud prête à acheter du gaz américain pour éviter des hausses de droits de douane et sauver son secteur automobile. C'est l'accord proposé par Cyril Ramaphosa à Donald Trump. Des détails ont été donnés hier, une semaine après que les deux chefs d'État se sont vus à Washington. En République démocratique du Congo, nous verrons ce qu'a dit l'auditeur militaire à la commission sénatoriale chargée d'étudier la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila. Nous avons pu consulter son rapport. Au Sénégal, un ancien ministre, beau-frère de Macky Sall, placé en détention provisoire. Amadou Mansour Faye a été inculpé hier de détournement de fonds destinés à la riposte anti-Covid. 4 autres ex-ministres sont poursuivis dans la même affaire. Et puis l'émotion hier à Libreville pour le retour du corps d'Aaron Boupenza, attaquant vedette des Panthères. L'ancien international est mort à 28 ans le 16 avril dernier en Chine. Il était tombé du 11e étage de son immeuble. Alors que les deux pays sont en pleine crise diplomatique et que les États-Unis menacent d'imposer de fortes hausses des taxes douanières, l'Afrique du Sud propose un accord commercial à Washington. Il a été discuté la semaine dernière lors des entretiens entre Donald Trump et Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche. Valentin Hugues, on vous retrouve en direct de Johannesburg. Des détails ont été donnés hier. Il porte ce projet d'accord sur le gaz. L'Afrique du Sud achèterait du gaz américain en échange d'exemption de droits de douane, notamment sur les exportations de véhicules.
Oui, Nicolas, et avec cette proposition, l'Afrique du Sud cherche à sauver son industrie automobile. C'était l'objectif principal de la rencontre Cyril Ramaphosa-Donald Trump, parler de commerce et trouver des accords, parce que les taxes sont passées de zéro dans le cadre de l'AGOA à 25% sur les véhicules. Ici, il y a par exemple des filiales de Ford, BMW ou encore Mercedes-Benz. Le risque, c'est donc une baisse des ventes, le départ de certains constructeurs et surtout des emplois en danger. Et puis le secteur automobile pèse énormément dans l'économie du pays, c'est environ 5% du PIB. L'Afrique du Sud a bien compris qu'avec Donald Trump, il fallait négocier. C'est donc sur le gaz naturel que le pays a décidé de faire une offre sur 10 ans. C'est aussi dans l'intérêt de la nation arc-en-ciel qui a de plus en plus de mal à s'approvisionner chez son voisin mozambicain. L'Afrique du Sud s'engage donc à acheter à hauteur d'environ 1 milliard de dollars de GNL américain par an, du gaz naturel liquéfié. En échange, les États-Unis doivent laisser l'Afrique du Sud exporter 40 000 véhicules par an sans les taxer. Pour l'instant, rien n'est finalisé. Les États-Unis doivent encore examiner cette proposition sud-africaine.
Valentin Hugues, correspondant de RFI à Johannesburg. Joseph Kabila à Goma, toujours pas de son ni d'image, mais selon son entourage, l'ancien président a tenu hier au moins 2 réunions pour préparer l'agenda de son séjour dans la capitale du Nord Kivu, contrôlée par le M23. Joseph Kabila, qui est accusé de trahison à Kinshasa. Jeudi, le Sénat a levé son immunité parlementaire. Le vote s'est appuyé sur le rapport d'une commission spéciale de sénateurs qui avait entendu l'auditeur militaire. Ce rapport, vous avez pu le consulter, Patient Ligaudy, que contient-il ?
Le rapport révèle d'abord que l'auditeur a commencé ses enquêtes contre Joseph Kabila bien avant l'instruction du ministre de la Justice. Il affirme disposer d'un faisceau de preuves. L'auditeur évoque par exemple que Joseph Kabila s'était déjà rendu dans l'est de la RDC, mais aussi dans des pays qu'il qualifie d'hostiles, et il dit détenir des preuves supplémentaires en lien avec ses déplacements. Des preuves qu'il ne détaille pas parce que, dit-il, elles sont couvertes à ce stade par le secret de l'instruction. Il accuse Joseph Kabila aussi d'avoir apporté un soutien financier à la FCM23. Dans le même document, l'auditeur précise que les investigations sur ces flux financiers sont toujours en cours, mais là encore, les éléments restent couverts par le secret de l'instruction. Outre la participation à un mouvement insurrectionnel, l'auditeur général, après la haute cour militaire, dit détenir des preuves de soutien à un projet de renversement des institutions constitutionnelles en collusion avec une puissance étrangère, le Rwanda. À ce propos, une source gouvernementale s'appuie sur le fait que Joseph Kabila a placé dans ses 12 engagements le fait, avait-il dit, je cite, de mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. Plusieurs sources politiques et judiciaires congolaises ont d'ailleurs confirmé encore hier à RFI qu'un procès sera bien organisé contre l'ancien président.
Et puis Amnesty International alerte sur des cas de torture et de mort dans les lieux de détention dans les zones occupées par le groupe armé AFC M23 dans l'est du Congo. L'organisation de défense des droits de l'homme affirme que le mouvement soutenu par le Rwanda tue, torture et fait disparaître de force des détenus, en prend certains en otage et les soumet à des conditions inhumaines dans des lieux de détention à Goma et Bukavu. Christian Roumou est chargé de campagne à Amnesty International pour la région des Grands Lacs.
Nous avons documenté au moins 4 cas où des détenus étaient torturés par la M23 et puis ces 4 personnes sont mortes à la suite de ces tortures. Nous avons documenté des cas d'arrestation arbitraire. Des personnes ont été arrêtées sur base d'accusation que ces personnes collaboraient avec le gouvernement ou ils collaboraient avec la société civile, mais tout cela sans preuve. Et les 18 personnes que nous avons interviewées pour ce travail nous ont dépeint des conditions très très difficiles. On leur refusait de la nourriture, même de l'eau, mais aussi ils ont décrit des conditions sanitaires qui étaient horribles. Nous sommes très très alarmés par cette situation parce que ces actes qui constituent une violation grave du droit international humanitaire et qui peuvent en fait constituer des crimes de guerre, se passent dans des conditions où il n'y a pas du tout de monitoring de ce qui se passe sur le terrain. Mais il faut absolument que le M23 donne accès aux moniteurs internationaux pour qu'ils puissent visiter ces sites.
Des propos recueillis par Pauline Azidi. Dans le centre du Mali, le maire de Kona, dans la région de Mopti, Ousmane Campo, enlevé dimanche par des hommes armés. Pas de revendication, mais les sources jointes par RFI attribuent unanimement le kidnapping aux djihadistes du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. David Bachet, que s'est-il passé ?
Ousmane Campo, surnommé Naba, travaillait dans son champ de riz pour les préparatifs de l'hivernage lorsque des hommes armés ont surgi et l'ont emmené avec lui. Kona, comme plusieurs dizaines de localités du centre du Mali, avait conclu l'année dernière un accord local avec le JNIM, avec la bienveillance obligée des autorités et de l'armée, dont la présence et les opérations n'empêchent pas les djihadistes de contrôler de toujours plus larges pans du territoire. En concluant ces accords, les habitants acceptent de se soumettre aux règles du JNIM, paiement de l'impôt, fermeture des écoles publiques, port du voile pour les femmes et du pantalon court pour les hommes. En échange, les djihadistes laissent les populations circuler et travailler.
À part que cet accord n'a jamais pleinement fonctionné.
C'est ce qu'expliquent plusieurs habitants, élus locaux et représentants communautaires. Il y a des hauts et des bas, résume l'une de ses sources avec euphémisme, et c'est ce qui expliquerait l'enlèvement du maire de Kona. La semaine dernière, un jeune villageois avait déjà été enlevé. Si le JNIM privilégie désormais les cibles militaires dans ses attaques, le groupe djihadiste n'hésite pas en revanche à tuer ou à prendre en otage les notables civils des villages qui refusent de se soumettre, ou encore des représentants de l'État malien, préfets, sous-préfets, mais aussi de simples professeurs. Ce sont parfois les passagers d'autocars entiers qui sont enlevés. Les prisonniers peuvent être tués, retenus en otage des années, ou libérés après de discrètes médiations en échange de rançons.
Au Sénégal, l'ancien ministre Amadou Mansour Faye, placé en détention provisoire. Ce beau-frère de Macky Sall a été inculpé hier pour des détournements suite à des surfacturations présumées dans la gestion des fonds qui étaient destinés à la riposte anti-Covid. 4 autres anciens ministres ont été inculpés dans la même affaire par la Haute Cour de justice. Une juridiction spéciale habilitée à juger les plus hautes autorités de l'État. Léa-Lisa Westerhoff.
Après avoir comparu près de 4 heures devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, Amadou Mansour Faye, actuellement maire de Saint-Louis, a été inculpé pour complicité de détournement de deniers publics, entre autres. Accusé de surfacturation, estimé à plus de 2,7 milliards de francs CFA suite à des achats de riz destinés aux populations vulnérables pendant la pandémie de Covid-19. Des accusations rejetées par Amadou Mansour Faye et son équipe d'avocats, selon laquelle ces chefs d'inculpation sont le résultat d'un acharnement politique. Maître Amadou Sall.
Si aujourd'hui il est retenu pour ce délit, pour cette infraction, il ne fait absolument l'objet d'aucun doute que c'est une commande politique. Parce que il n'est en rien concerné et il l'a démontré.
Selon sa défense, l'ancien ministre du Développement communautaire ne peut pas être reconnu responsable de possibles cas de surfacturation car il ne faisait pas partie de la commission qui a choisi l'entreprise à laquelle ce riz a été acheté. Hier, ses avocats ont proposé une mise en liberté provisoire avec paiement d'une caution, refusée par la commission d'instruction qui doit désormais compléter son enquête pour décider si Amadou Mansour Faye sera poursuivi ou non. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
En Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon sort de son silence pour réaffirmer que son ambition est intacte pour la présidentielle prévue en octobre. Figure dissidente au sein du PDCI, il était resté en retrait face à la série de rebondissements judiciaires qui ont secoué ces dernières semaines l'ancien parti unique. La justice a notamment ordonné la radiation de la liste électorale du président du PDCI, Tidjane Thiam, investi par le parti pour la présidentielle, alors que le parti estime qu'il n'y a pas de plan B. Jean-Louis Billon, lui, souhaite ouvrir les débats en interne et proposer ses services, Binta Diagne.
Depuis quelques semaines, Jean-Louis Billon était resté silencieux, dénonçant une mascarade. Il n'était pas candidat à la convention qui, le mois dernier, a désigné Tidjane Thiam candidat à la présidentielle. Mais aujourd'hui, Jean-Louis Billon part d'un constat. Son parti, le PDCI, n'a pas de candidat pour la présidentielle, dit-il. Au nom de l'unité et pour éviter que le PDCI ne rate ce rendez-vous électoral, Jean-Louis Billon réaffirme ses ambitions.
Je suis PDCI. Aujourd'hui, le PDCI n'a pas de candidat. J'appelle au débat démocratique au niveau du parti. Si je suis entendu, tant mieux. Si je ne suis pas entendu, j'avancerai. Je suis soutenu par un ensemble, déjà, de mouvements et d'autres partis politiques. Je n'ai pas besoin d'aller en candidat indépendant. Il y a une myriade de mouvements et de partis qui me soutiennent. Et je ramènerai cette victoire au PDCI.
Sollicité par RFI, le porte-parole du PDCI affirme ne pas avoir d'informations au sujet d'une tentative de rapprochement avec la direction du parti. Une requête qui surprend certains cadres qui relèvent des contradictions. Jean-Louis Billon ne participe pas aux réunions du parti. Il était absent des deux derniers bureaux politiques, souligne l'un d'eux. Il n'y a pas de concertation interne sur cette question, affirme un autre membre du bureau politique qui dénonce une démarche individuelle. Nous nous battons pour que notre candidat, à savoir Tidjane Thiam, soit maintenu sur la liste électorale, poursuit cette source. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Afrique Midi sur RFI.
Midi 41 à Abidjan, dans la deuxième partie d'Afrique Midi. Le corps du footballeur Aaron Boupenza rapatrié hier à Libreville. Et puis au Cameroun, nouvelle étape dans le conflit entre le gouvernement et l'entreprise canadienne McGill. L'accord entre l'île Maurice et le Royaume-Uni sur la rétrocession de l'archipel des Chagos a été suivi avec beaucoup d'attention sur une autre île de l'océan Indien. À Madagascar, qui elle réclame à la France la restitution des îles éparses, un archipel initialement malgache mais demeuré français au lendemain de l'indépendance, Sarah Teto.
Et si Madagascar pouvait tirer parti d'une manière ou d'une autre de la rétrocession des îles Chagos à Maurice? Beaucoup ici l'espèrent. Armanan Rani Rarnous est maître de conférence à l'université d'Antananarivo et responsable du département de sciences politiques à l'université catholique de Madagascar.
C'est un événement inédit dans l'océan Indien et ça veut dire que tout est possible à l'heure actuelle. La balle est du côté malgache puisque cette victoire mauricienne, c'est une victoire des droits de l'homme. Il faut que Madagascar s'en inspire. Comment ? En faisant davantage prévaloir les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Pour la population, rappelle ce spécialiste de la géopolitique de l'océan Indien, les îles éparses sont malgaches. La résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de 1979 a explicitement reconnu la souveraineté de la grande île sur ces petites terres. Mais difficile, cependant, de calquer le cas malgache sur le cas mauricien.
Il y a des nuances fondamentales entre ces îles. Les îles Chagos étaient habitées et la population a été expulsée, ce qui n'est pas le cas des îles malgaches. Puisqu'elles sont inhabitées, les conséquences en matière de droits humains sont différentes. D'autre part, à l'inverse de Chagos, pour le moment, Madagascar ne compte pas saisir la Cour internationale de justice parce que ces îles lui appartiennent.
En coulisses ici, on espère que les arguments gagnants de la voisine mauricienne serviront aux négociateurs envoyés le 30 juin prochain à Paris pour la seconde rencontre de la commission mixte sur les îles éparses. Sarah Deto, Antananarivo, RFI.
Au Gabon, le corps d'Aaron Boupenza, rapatrié hier à Libreville. Le footballeur attaquant vedette des Panthères du Gabon avec 35 sélections et 8 buts est décédé le 16 avril dernier en Chine. Il avait 28 ans, il est tombé du 11e étage de son immeuble. L'enquête de la police chinoise a conclu à la thèse du suicide. À l'aéroport Léomba de Libreville, le reportage d'Yves Laurent Goma.
Le cercueil est porté par les membres de la famille d'Aaron Boupenza et l'émotion est vive parmi ceux venus assister au rapatriement de la dépouille mortelle. Parents, amis, connaissances et vedettes de l'équipe nationale, Stéphane Nguema, ancien capitaine des Panthères du Gabon, pleure la disparition d'une étoile.
Aaron, c'était vraiment un joueur exceptionnel qui avait énormément de talent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va énormément, vraiment énormément nous manquer à nous tous.
Audacieux et très rapide, Boupenza a fait rêver les Gabonais.
Aaron Boupenza m'a beaucoup fait rêver, surtout à la CAN au Cameroun. C'est là particulièrement que j'ai connu ce joueur et j'ai apprécié son talent.
Boupenza était un joueur très décisif, percutant.
L'émotion reste forte et les questions nombreuses après les événements du 16 avril dernier, quand Aaron Boupenza a chuté du 11e étage de son immeuble d'Angsu en Chine.
Je crois que c'était un poisson d'avril. Finalement, c'est vrai, parce que j'ai douté en fait, j'ai douté. Il faudrait qu'on soit vraiment bien informé.
Je ne comprends pas, personne ne comprend ça. Moi.
Les autorités gabonaises ont promis des funérailles nationales pour l'ancien attaquant de la sélection. Yves-Laurent Gomard, Libreville, RFI.
Il est devenu le symbole d'ambition déçue. Le chantier du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé est à l'arrêt depuis 2 ans. Et le conflit entre le gouvernement camerounais et l'entreprise canadienne McGill, qui était chargée d'achever les travaux, se poursuit. McGill réclame environ 16 milliards de francs CFA, 25 millions d'euros au gouvernement, qui de son côté accuse l'entreprise d'avoir manqué à ses engagements. À Yaoundé, les explications de Richard Onanena.
L'affaire fait la une des journaux locaux. L'entreprise canadienne s'en prend au ministère des Sports. Le donneur d'ordre est signataire de la réception anticipée des travaux du complexe Omnisport d'Olembe, qui est, selon McGill, à l'origine du blocage des fonds, près de 16 milliards de francs CFA. En 2023, la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris a demandé à l'État camerounais de mettre cette somme, représentant les factures litigieuses, dans un compte séquestre. Le gouvernement camerounais conteste cette décision, affirmant que McGill a perçu plus d'argent que prévu pour la première phase du projet, soit 42 milliards de francs CFA au lieu des 22 milliards prévus. Le gouvernement camerounais n'exclut pas une contre-attaque contre McGill devant les juridictions compétentes pour manquement à ses engagements contractuels. McGill a été choisi par le Cameroun en 2020 pour achever les travaux après la rupture du contrat avec l'Italien Piccini. Le chantier du complexe sportif d'Olembe est à l'arrêt depuis près de 2 ans. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
La liste des joueurs des sélections africaines de football en vue de la prochaine quinzaine internationale continue d'être publiée. Pas de journée d'éliminatoire du Mondial 2026, cette fois-ci uniquement des matchs amicaux. Marc Brice, le sélectionneur du Cameroun, en profite pour laisser quelques cadres au repos. Ni André Onana, le gardien de Manchester United, ni le milieu de terrain André Franck Zombo Anguissa ne disputeront le tournoi de Marrakech contre l'Ouganda et la Guinée équatoriale les 6 et 9 juin prochains, Joël Wadem.
Pour le tournoi de Marrakech, Marc Brice a décidé de miser sur de nouveaux talents. André Onana, finaliste malheureux de la Ligue Europa avec Manchester United, ne sera pas présent. Brian Bomo, auteur d'une belle saison à Brentford avec 20 buts inscrits, est également absent. Idem pour Franck Zambo Anguissa, fraîchement sacré champion d'Italie avec Naples. Les vieux briscards retenus sont entre autres le capitaine Vincent Aboubakar, Ignatius Ganago, Jean-Charles Castelletto ou Fay Collins. L'attaquant de Porto, Dani Namasso, lancé en mars, est aussi présent. Pour le reste, le sélectionneur belge a fait confiance à un groupe profondément rajeuni. 4 joueurs sont convoqués pour la première fois. Il s'agit du jeune latéral gauche de Rennes, Aboubakar Najida, et de 3 attaquants locaux. Serge Dora de Gazelle de Garoua, meilleur buteur du championnat camerounais avec 13 réalisations. Florent Batoum de AS Fortune Adomfou et Boris Foumou de Dynamo de Douala. Pour les observateurs, l'objectif de cette sélection expérimentale est la détection de nouveaux talents, non seulement pour préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, mais également pour assurer une excellente participation du Cameroun à la CAN prochaine au Maroc. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
13h48 à Yaoundé. Anne Cantner, les grands titres de ce mardi 27 mai.
La présidente de la Commission européenne parle d'un bombardement odieux de la part d'Israël après la destruction d'une école à Gaza et de sites abritant des civils. Elle appelle aussi à la reprise de l'aide humanitaire alors que le flou règne sur l'organisation censée distribuer le peu d'assistance qui entre en ce moment la Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par les États-Unis. Elon Musk quitte le Dodge, le département sur mesure créé pour sabrer dans les dépenses publiques américaines. Le milliardaire va se consacrer à ses entreprises. Et puis l'Union européenne allège les règles imposées aux constructeurs automobiles. Il n'y aura pas d'amende en fin de compte pour ceux qui ne se plient pas aux exigences d'émissions de CO2.
Ce mardi marque l'anniversaire de la seconde abolition de l'esclavage en Guadeloupe. C'était le 27 mai 1848. Aujourd'hui encore, la mémoire de l'esclavage se perpétue dans ce département français d'outre-mer, notamment au travers du carnaval. L'un des groupes qui anime ce carnaval, Voukoum, célèbre l'imaginaire qui relie l'archipel au continent africain au travers de masses, des scènes dans lesquelles les participants se griment et se transforment. Ce groupe, Voukoum, est au centre d'un ouvrage de l'ethnologue Flore Pavy, qui est l'invité de Laurent Corot.
Bonjour Flore Pavy.
Bonjour Laurent Corot.
Pour bien entrer dans votre travail, il nous faut planter le décor avec quelques éléments sur l'histoire de l'esclavage en Guadeloupe. De combien de personnes parle-t-on et venant d'où ?
Entre le début de la colonisation française en 1635 et l'abolition donc de l'esclavage définitive en 1848, on estime qu'environ 260 000 personnes ont été déportées d'Afrique en Guadeloupe. La majorité de ces personnes réduites en esclavage venaient d'Afrique de l'Ouest, donc en particulier du Golfe de Guinée, notamment donc la côte des esclaves qui correspond aujourd'hui donc à l'actuel Bénin, Togo, une partie du Nigeria. Et donc ces personnes qui étaient envoyées donc vers la Guadeloupe, mais aussi vers la Martinique ou vers Saint-Domingue, donc à l'actuel Haïti, n'étaient plus que 80 000 personnes environ au moment de la première abolition en 1794.
Première abolition qui sera donc suivie d'une deuxième abolition dont on commémore aujourd'hui l'anniversaire.
Exactement.
Voukoum, le groupe qui est au cœur de votre livre, n'est pas un participant ordinaire au carnaval guadeloupéen. Son nom est déjà tout un programme. Voukoum, ça veut dire désordre en créole. Et ici, Flore Pavy, on ne parle pas de défilé, mais de déboulé. Derrière ce moment festif du carnaval se joue donc une critique, une contestation de l'ordre établi.
Absolument. Donc le déboulé, ce sont des sorties du groupe qui ont lieu pendant les 2 mois de la saison carnavalesque à raison de 2 sorties hebdomadaires à peu près. Il s'agit d'une irruption présentée comme incontrôlable qui peut aller dans le sens inverse de la circulation, qui en général n'est pas forcément prévu, qui n'est pas autorisé par les autorités. Donc il y a une idée un petit peu de rébellion, d'où le titre du livre. Chaque sortie est donc organisée autour d'une certaine tenue qui fait référence aux origines notamment de la population guadeloupéenne.
Qu'est-ce qu'il s'agit de contester au fond avec ces déboulés ?
Il s'agit de contester une certaine volonté d'assimilation qui aujourd'hui est perçue comme une invisibilisation des identités créoles. Et donc ce qui est contesté, c'est cette idée de disparition de la culture guadeloupéenne populaire, mais aussi une forme de déshumanisation qui a été au cœur du projet colonial et qui aujourd'hui continue d'être pointée du doigt avec des termes comme démonage, donc en créole, qui signifie à la fois perte d'identité et perte d'humanité.
Ce que vous expliquez dans votre ouvrage, Flore Pavy, c'est que pour cette critique de la métropole, Voukoum propose au travers de ses déboulés une série de tableaux qui renvoient aux origines coloniales guadeloupéennes à la place de l'esclavage dans la formation de la Guadeloupe.
Oui, alors chaque sortie du groupe mobilise ce qu'on appelle un mas différent. Donc le mas, c'est une tenue, mais qui est beaucoup plus que ça, puisque c'est, en fait, c'est aussi le support d'une forme d'incarnation des ancêtres des Guadeloupéens. Ces mas sont confectionnés patiemment avant chaque sortie, selon des règles précises, qu'on appelle généralement le respect du mas. Les ancêtres en question sont donc tous les oubliés de l'histoire officielle, qui faisait apprendre pendant longtemps aux enfants guadeloupéens le fameux « nos ancêtres, les Gaulois ». Et donc, parmi ces oubliés de l'histoire officielle, effectivement, on a les ancêtres réduits en esclavage, avec par exemple le masque Congo déportation. Mais ce sont aussi les engagés indiens, par exemple, qui ont été amenés vers la Guadeloupe après donc l'abolition de l'esclavage, donc dans la deuxième moitié du 19e siècle, jusqu'à 40 000 personnes. Ou encore les populations autochtones, donc notamment les Kalinagos.
Et donc, dans certains masses, les Guadeloupéens réaffirment leur lien à des éléments sacrés africains ancestraux.
Oui, absolument. On a l'idée, donc, pour les acteurs du mas, que les corps ont gardé une certaine mémoire de forme spirituelle plus ancienne, dont on pourrait raviver, en fait, la puissance spirituelle en reprenant conscience de leur signification.
L'un de ces tableaux, c'est le mas à tirailler Sénégal qui évoque le recrutement des tirailleurs sénégalais par les autorités coloniales et qui le fait avec un air manifeste de dérision, Flore Pavy.
Tout à fait. Donc, c'est un des nombreux mas du groupe Voukoum. Donc, mas à tirailler Sénégal, donc mas du tirailleur sénégalais qui fait référence donc à ce corps militaire qui faisait partie des troupes coloniales notamment, qui était souvent envoyé comme chair à canon sans reconnaissance, qui a notamment été envoyé vers la Guadeloupe, en particulier au cours de la Seconde Guerre mondiale, et qui permettait en fait de maintenir un certain ordre colonial répressif dans une forme d'instrumentalisation raciale, puisque du coup, ces personnes étaient victimes, elles aussi, d'une forme de racisme intériorisé par les Guadeloupéens. qui les percevaient comme des instruments de la domination coloniale française.
Au final, Flore Pavie, ce que montre votre étude, c'est qu'une Afrique imaginaire réinventée et dans certaines régions du monde, comme la Guadeloupe, aujourd'hui encore, au XXIe siècle, un symbole de ralliement.
Oui, c'est important de parler d'Afrique réinventée, puisque c'est pas une Afrique figée, nostalgique, c'est une Afrique donc qui est liée à la diaspora, qui est en partie réinventée et qui offre à des mouvements culturels guadeloupéens comme Vukum une forme de puissance d'imaginaire sacré qui vient un petit peu irriguer les luttes. Pour reprendre la phrase de Césaire, c'est le sacré au sens révolutionnaire du mot, c'est-à-dire un horizon de spiritualité qui offre finalement la force de lutter. Et donc la grande force de cet imaginaire sacré africain, c'est qu'il permet à ces groupes de se penser autrement que comme simplement une périphérie d'un centre, qui serait la France, mais aussi comme des sociétés caribéennes créoles. Et donc l'Afrique en Guadeloupe est perçue comme une origine souvent floue, mais qui est très profondément ressentie. Notamment de plus en plus donc, de jeunes Guadeloupéens se réapproprient des symboles culturels africains.
Merci Flore Pavie.
Merci.
Flore Pavie, autrice de l'ouvrage Vukum, esprit rebelle du carnaval guadeloupéen, aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Dans moins de 2 ans, le Sénégal accueillera les Jeux Olympiques de la Jeunesse, un événement sportif planétaire, première compétition olympique en terre africaine, mais aussi une vitrine exceptionnelle pour afficher l'ambition du Sénégal sur la scène internationale. À Dakar, les chantiers de ces JOJ s'accélèrent. Et les professionnels du tourisme se préparent, Juliette Dubois.
Des milliers de visiteurs sont attendus au Sénégal pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2026. Une opportunité unique pour faire rayonner la destination Sénégal et miser sur le tourisme comme moteur de développement économique. Adam Ndiaye, le directeur de l'Agence sénégalaise pour la promotion du tourisme.
Tous les projecteurs seront braqués sur Dakar. C'est l'occasion de montrer ce que nous avons de meilleur culturellement, sportivement et éventuellement également en termes de créativité, d'innovation. Et je dois dire que c'est une opportunité unique également pour vendre, n'est-ce pas, notre cachet artistique également, à travers le sport traditionnel surtout, la lutte sénégalaise.
En 2018 à Buenos Aires, plus d'1 million de spectateurs ont assisté au JOJ. Le Sénégal s'attend donc à une affluence historique. Pour accueillir cette vague, l'offre touristique se renforce. Dizaines d'hôtels en construction, pôles de sport et de tourisme en plein essor, notamment à Diamniadio, autour de l'aréna multisport et du stade de football. Nelson Camara est le fondateur de Sport Impact, une agence qui utilise le sport comme un levier de développement.
Un des constats majeurs, ça a été effectivement l'importance de raisonner en consortium pour que les projets aient un maximum d'efficacité terrain et d'impact. Et notamment quand vous construisez un grand centre de conférence ou vous avez un grand stade comme le stade Abdoulaye Wad, il vous faut des réceptifs hôteliers autour. Sinon, les événements ne viennent pas. Et si les événements ne viennent pas, vous ne pouvez pas pérenniser vos infrastructures sur longue période.
Des infrastructures durables, mais également des emplois. Cher Guy, du syndicat des agences de voyage.
Il va falloir également penser employer des jeunes. Parce que ces infrastructures également vont employer des jeunes. Donc sur le plan social et économique, c'est très important.
Le comité d'organisation des JOJ prévoit justement de former des jeunes à l'accueil des visiteurs avec l'ambition de pérenniser ces emplois. Au-delà des JOJ, le Sénégal veut capitaliser sur le sport à long terme, à l'image de la Basketball Africa League, une compétition de la NBA qui attire des foules sur le continent, y compris à Dakar.
Il faut que l'Afrique montre qu'elle est capable d'organiser des grands événements sportifs avec des standards internationaux, et je pense que ça a été le cas, on le voit à travers les différentes compétitions. On a des mondiaux de cyclisme qui arrivent très prochainement à Kigali.
Nelson Camara plaide désormais pour qu'une prochaine CAN ait lieu à Dakar. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et c'est à Dakar que se termine cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Mickaël Goncalves, Théo Redeuil et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur internet www.rfi.fr. Ce mardi sur RFI.
Comment les prestidigitateurs manipulent notre cerveau?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Un cerveau, ça se trompe énormément. Les magiciens savent jouer sur ces failles pour nous illusionner. Pourquoi et comment? Deux chercheurs en psychologie cognitive dévoilent les secrets de la prestidigitation et surtout ce que ça dit de nous et de notre fonctionnement.
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI. RFI, la sélection du mois.
Lose Low.
Premier regard, il est parfait. Il est piqué, innocent. Il n'aurait pas dû me le montrer. Très vite, je me suis lassé de lui. Je perds pas de temps, je vais retrouver Sugar.
Graham Deschon et Michael Rose.
RFI Musique.